BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretti.
Il reste une demi-heure de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est toujours en progression, pratiquement 1,2% de hausse. Étienne Brac, on est à 7718 points.
En effet, une belle séance, mais qui sonne un petit peu creux. Regardez les volumes, ils sont médiocres. 1,3 milliard d'euros négociés dans le CAC 40 à 31 minutes du fixing. À noter que toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le vert, à l'exception de Refin Scientifique, qui perd 16% avec le fonds activiste Muddy Waters, qui estime que Eurofin a truqué ses comptes ces dernières années. La valeur redescend sous les 45 euros, alors qu'à l'inverse, le secteur bancaire est en pleine forme. Après un parcours compliqué depuis 15 jours, vous avez Crédit Agricole, Société Générale et même BNP qui gagnent plus de 3%. BNP qui, ça y est, repasse devant Banque Santander, première capitalisation boursière dans le secteur bancaire en Europe. A noter une nette détente sur l'obligataire pour le 10 ans français et donc un spread, un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui se resserre. Peut-être le programme du Rassemblement National qui rassure un petit peu par rapport à ce qui a pu être imaginé il y a 15 jours. Tout ça porte la tendance et donc un CAC 40 qui est sur des plus hauts de 10 jours au-delà des 7700 points.
Le chiffrage des différents programmes économiques pour les élections législatives, comment est-ce que les chiffres sont calculés, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont fiables et comment ont-ils été perçus par la communauté financière? On va en parler dans un instant avec nos invités du club. Et puis on s'intéressera tout à l'heure à Eurofin Scientifique. Étienne en parlait, énorme gadin aujourd'hui suite à une déclaration du fonds activiste Muddy Waters. Faut-il s'interroger sur la stratégie de ces fonds? Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des lanceurs d'alerte? Eric Lewin des publications Agora sera avec nous tout à l'heure. Il nous apportera son éclairage juste après le fixing. 17h06, le club.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et avec nous en cette fin d'après-midi, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Rebonjour Véronique. Bonjour. Xavier Patrolin, président de Albatros Capital. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, c'est d'actualité. On a eu beaucoup de chiffres ces derniers jours sur le coût des programmes des uns et des autres dans les élections législatives. On a d'abord parlé de 100 milliards d'euros pour le Rassemblement National, 150 milliards pour le nouveau Front Populaire. D'abord, comment est-ce qu'on calcule ces chiffres, Véronique? Et est-ce qu'on peut leur faire confiance?
Comment est-ce qu'on calcule? Bon, on connaît, je sais pas, si on prend la proposition sur la TVA, on sait ce que coûte un point ou ce que rapporte un point de TVA. On connaît également ce que rapportent les différents impôts ou le coût. D'ailleurs, là, c'est souvent un peu plus complexe pour la retraite. Hein. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on voit les plus grandes marges d'estimation. Mais
si on regarde la TVA, elle est liée à la consommation.
Oui.
C'est forcément un calcul quelque part au doigt mouillé.
Bah, c'est au doigt mouillé, c'est toutes choses égales par ailleurs. Voilà, on va dire. Donc, et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à ces chiffrages ou ces exercices auxquels moi j'essaye de ne pas me livrer. Il y a des instituts qui sont beaucoup mieux armés pour ça d'abord. Et puis parce que fondamentalement, je doute. Et je doute de quoi? Précisément parce qu'on ne le met pas dans le contexte. On peut chiffrer. Hein, un point de TVA, c'est tant. Telle baisse d'impôt, c'est tant, etc. Et puis on arrive à un total. Bon, and so what? Si on ne prend pas en considération l'impact économique des premières mesures. Donc, il faudrait déjà avoir un calendrier à peu près précis et être certain de ce qui va être annoncé et quand et comment, dans quel contexte international, quelle réaction des marchés avec quel risque sur les taux d'intérêt, éventuellement une réaction sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, peut-être un impact sur le marché immobilier, la reprise escomptée. Enfin, bon, tout ceci fait qu'on annonce des chiffres qui n'ont pas grand sens, me
c'est
semble-t-il.
C'est forcément approximatif.
Et forcément, moi j'aime bien aux États-Unis par exemple, vous avez un institut indépendant qui chiffre les programmes et qui chiffre leur impact économique. Donc on a, voilà, tel programme, telle dépense ou je sais plus, voilà, et tel impact sur le potentiel de croissance à 10 ans par exemple.
Passer au tamis des mêmes économistes.
Et oui, et donc là, bon, ça peut ressembler à quelque chose. Alors que nous, on s'arrête au chiffrage. Bon, le chiffrage n'a aucun sens si on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire essayer d'analyser précisément l'impact des mesures sur la croissance, sur donc, la partie recette du reste.
On a vu, Xavier Patrolin, les marchés s'inquiéter la semaine dernière. Il y a quand même un énorme décalage entre les annonces des politiques, qui en période électorale ont toujours tendance à promettre la lune dans certains cas, donc des mesures qui peuvent coûter très cher, et puis la réalité, j'allais dire la froideur des marchés, qui eux s'interrogent sur le financement de ces programmes et sur l'impact possible en termes de dette.
Oui. Non mais, au fond, on parle de programme, le terme est totalement impropre. C'est une énorme plaisanterie. Non, mais c'est une énorme plaisanterie, puisque le 9 juin au soir, on a découvert à 21h02 que l'Assemblée nationale allait être dissoute. Donc j'imagine que tous les états-majors de parti ont découvert ça au même moment, et ils n'avaient strictement aucun programme. D'ailleurs, c'est ce que l'on découvre. C'est que on pourrait même dire, si j'osais, que y compris la majorité feu, la majorité présidentielle, n'a pas de programme non plus.
C'est peut-être même celle qui le reconnaît le plus.
Peut-être. Et donc c'est très difficile de porter un jugement quantitatif. Par contre, on peut donner quelque chose de qualitatif. Au fond, c'est quoi les problèmes de la société, de l'économie française? À mon avis, c'est pas un problème de consommation, puisqu'on a un déficit courant. Une économie qui a un déficit courant est par construction une économie qui consomme plus qu'elle ne produit, qu'elle n'épargne. Donc, c'est pas le problème numéro un de l'économie française. On a un déficit commercial, un déficit de la balance des paiements. On a un déficit budgétaire qui est le primaire, même pas le secondaire, mais déficit primaire qui est le plus élevé de la zone euro. Et donc, on a des propositions à 10 jours, ou à maintenant moins de, à 6 jours du premier tour de l'élection législative, qui sont globalement des dépenses. Des dépenses. Alors après, on peut les quantifier, puisque le programme du nouveau Front populaire, c'est un retour arrière sur l'époque qui précédait Pierre Bérégovoy, puisqu'on retourne à des mécanismes d'indexation
des salaires sur l'inflation.
L'inflation, une hausse du SMIC de 16%, une hausse du point d'indice des fonctionnaires de 10%. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on est aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, on a un déficit primaire de 3,5%. Quelles que soient les mesures, que ce soit du Rassemblement National ou du nouveau Front populaire, on peut s'attendre à ce que le déficit primaire en 2025-2026 se situe entre 4,5 et 5,5%. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement pour 2025 un déficit budgétaire, parce que là-dessus il faudra rajouter la charge de la dette, qui va caracoler entre 6 et 7 points.
Donc, en train de me dire en fait que le sujet principal c'est la dette.
Bien sûr. Ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de totalement iconoclaste par rapport à nos pairs européens. C'est quelque chose qui ait des problèmes de pouvoir d'achat pour une partie de nos concitoyens, je ne vais pas le nier, et qu'il faille adresser cela, oui. Mais qu'il faille adresser cela typiquement par la mesure que prendrait le Rassemblement National, qui est une baisse de la TVA sur les prix énergétiques tous azimuts. Au fond, on arrose le désert avec de l'eau.
Même les plus riches.
Chacun sait que quand on arrose le désert avec de l'eau, ça produit rarement de la végétation, voilà. Donc ça ne marchera pas. Si on prend les mesures de nouveau Front populaire, là on sait que les effets induits à horizon 12-24 mois, au-delà du matraquage fiscal, c'est un taux d'inflation plus élevé, un taux de chômage plus élevé, une perte de compétitivité des entreprises. C'est un reverse complet par rapport à ce qui a été fait depuis une dizaine. Moi, j'évoquais Pierre Bérégovoy. Donc, ce sont des programmes qui sont hors sol. Alors après, la question que tu poses, Stéphane, c'est de savoir si les marchés vont exercer une contrainte. Non, les marchés sont en stand-by. À mon avis, on est dans l'œil du cyclone. Il faut commenter l'évolution du spread au jour le jour. À mon avis, l'évolution du spread va véritablement commencer à partir de dimanche soir ou lundi matin.
Ouais. Alors, les marchés ne font pas de politique. En revanche, les marchés s'inquiètent d'une possible dégradation de la dette, si je vous ai bien suivi. On assiste depuis quelques jours à un Rassemblement National qui retire les unes après les autres des mesures qui étaient, on va dire, emblématiques du programme de 2022. Et ça veut dire concrètement que le RN est prêt à annuler certaines dépenses qui étaient prévues et qui faisaient un petit peu affoler les compteurs. On était monté jusqu'à 100 milliards d'euros. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on assiste là cet après-midi à une baisse des taux sur le 10 ans français? Les marchés ont l'air rassurés par une perspective, puisque le RN est pour l'instant en tête des sondages, qui coûterait peut-être moins cher que prévu en termes de dette.
Alors, c'est vrai que depuis le 9 juin, la question est souvent posée. Est-ce que c'est un RN type Giorgia Meloni qui finalement se range très vite dans les normes européennes et montre finalement une grande capacité à gouverner, y compris sans provoquer de crise? Ou est-ce que c'est autre chose? Les détails du programmes ou des propositions sont plutôt rassurantes. Effectivement, le fait d'enlever des bonnes parties assez coûteuses font que les marchés se disent, tiens, bon, finalement, c'est bien plutôt du type Giorgia Meloni qui se
préfère. Il n'est plus question de nationaliser les sociétés d'autoroutes, il n'est plus question de bloquer les prix des produits de première nécessité. Il y a quand même pas mal de mesures qui ont été annulées et qui potentiellement pouvaient coûter extrêmement cher.
Voilà, donc je pense que en même temps, politiquement, ça se comprend. Essayons de nous mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on ferait ? On a 2 ans et demi avant la prochaine grande échéance présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas se montrer comme les créateurs de crises souveraines. Donc on va plutôt être dans nos petits souliers. De toute façon, les électeurs élisent pas, votent pas le Front National pour des propositions économiques. C'est rarement le cas, c'est plutôt pour des propositions sociétales, idéologiques. Donc on va en faire un petit peu pour satisfaire tout le monde et puis on va surtout essayer de montrer qu'on est capable de gérer la France. C'est là qu'ils sont attendus pour préparer au mieux 2027. C'est comme ça que je comprends et du coup je pense que c'est une vraie stratégie politique qui a son sens. Donc oui, probablement que le cas de figure on ouvre les vannes des déficits publics ou des dépenses publiques etc. non financées est assez faible finalement dans la probabilité qui se dessine.
Sans prendre position, Xavier Patrolin, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le RN paraît moins comme un épouvantail pour les marchés qu'il y a une semaine ?
Oui, probablement, si on doit établir une hiérarchie par rapport au nouveau Front Populaire, probablement on peut établir cette hiérarchie. Mais moi, je m'oppose assez à la comparaison avec l'Italie. Au fond, pourquoi ? Parce que l'Italie, c'est quand même un pays, du point de vue budgétaire, qui est quand même très vertueux. C'est un pays qui dégage un excédent primaire depuis sa rentrée dans l'Union européenne, de près de 2 points de PIB.
Pour autant, il y a un parallèle qu'on peut faire sans trop se tromper. L'Italie est quand même tenue par sa dette et par les crédits européens.
Oui, tout à fait. Mais la France va avoir, quel que soit le gouvernement qui émergera le 7 juillet au soir ou le lendemain, va avoir une phase de négociation extrêmement complexe avec nos pairs européens. Donc, dire qu'au fond, on peut balayer d'un revers de main, au fond, ce qui s'est passé le 9 juin, c'est un non-sujet et qu'on va pouvoir manœuvrer en ne proposant pas à la société de répondre à un certain nombre de ces questions, je pense que c'est une chimère. Donc on a une contradiction, on peut agiter la TVA sur les prix énergétiques, mais de toute façon les prix énergétiques allaient spontanément baisser. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure allocation du capital, de la dépense publique. Je pense que si 58% des ouvriers ont voté Rassemblement National ou 40% des employés ont voté Rassemblement National au soir des élections européennes, c'est que probablement ils sont dans l'attente de quelque chose, pas uniquement du point de vue symbolique et idéologique, mais ils sont dans l'attente de quelque chose. Et je ne suis pas sûr que la baisse de la TVA sur les prix énergétiques soit suffisante. Donc, les marchés peuvent faire hiérarchiser en termes d'enjeux, mais il ne faut pas qu'ils oublient que la situation en termes de déficit primaire de la France est très compliquée. Très compliquée. Et que, quoi qu'il arrive pour toute nouvelle équipe, ça va être très challenging par rapport aux pairs européens. Et si vous écoutez, moi j'ai écouté une partie de la conférence de presse de Jordan Bardella, manifestement, on rentre dans une phase, alors lui met ça sous le terme de négociation, mais qui va être quand même assez frictionnelle avec la Commission européenne et nos partenaires européens.
On a bien compris le parallèle avec l'Italie. On sait aussi que les entreprises n'aiment pas faire de politique, surtout lorsqu'il s'agit de partis extrêmes, et les marchés financiers non plus. Néanmoins, à vous entendre, j'ai le sentiment aujourd'hui que les milieux d'affaires se disent qu'entre deux solutions extrêmes, ils préféreraient le programme économique du Rassemblement National plutôt que le bloc Nouveau Front Populaire dans lequel on retrouve LFI avec des positions économiques assez radicales.
Oui, mais ce que ne maîtrisent pas les marchés, c'est la conflictualité. Parce que la France, c'est pas l'Italie, même si l'Italie était un pays fondateur de l'Union européenne. C'est la conflictualité de la position française. Alors certes, on aura toujours le président de la République qui sera normalement en poste, mais la conflictualité qu'on va avoir, notamment avec notre partenaire allemand. Et là, les choses vont être quand même très compliquées. Je rappelle juste comme ça, cher Stéphane, mais que lorsqu'on négocie en Allemagne un accord de gouvernement, une plateforme de gouvernement. En général, ça dure entre un mois et deux mois et c'est des négociations extrêmement touffues.
Parce que les Allemands ont l'habitude des gouvernements d'union, des compromis.
Oui, mais
en France, c'est pas vraiment dans notre ADN.
Probablement, mais je pense que du côté, j'ai pas lu la presse allemande tout récemment, mais je pense que du côté allemand, je pense que on est tombé de très haut quand on voit le contenu des programmes, que ce soit celui du Rassemblement National ou celui du Nouveau Front Populaire. Alors peut-être qu'on peut après caler une hiérarchie, mais moi je pense qu'il y a un acteur qui avance un peu masqué, si j'ose dire, c'est le Rassemblement National. Donc il a démembré un certain nombre de choses, c'est possible, mais il peut remonter en charge ultérieurement, ça dépendra notamment de la majorité ou pas majorité au Parlement. Et par contre, on a un acteur qui est avancé, je dirais, de manière assez claire et peut-être même un peu grossière, éléphant dans le magasin de porcelaine, qui est le Nouveau Front Populaire avec un reverse complet à 180 degrés. Donc effectivement, si l'idée est de dire est-ce que les marchés choisissent par cynisme une rectification à la marge de quelques degrés ou un virage à 180 degrés, oui, la réponse est tautologique.
On a beaucoup parlé des dépenses et de l'évaluation de ces programmes. Un point frappant, Véronique, on n'a pas parlé vraiment d'investissement dans ces programmes. L'investissement, ça prépare quand même l'économie de demain.
C'est effectivement un point qui interpelle nulle part. Nulle part on ne parle d'investissement et de l'effort d'investissement qu'il va falloir faire pour adresser, ne serait-ce que pour adresser les grands chantiers de demain. Et donc, autant je conçois qu'on ait un point où proposer des mesures de redistribution des revenus, et à mon sens indispensable, autant on peut pas omettre la partie investissement. Ça fait depuis la crise de 2008, et ça avait commencé un petit peu avant, la grande faiblesse de nos économies vient de l'insuffisance d'investissement productif, qui est peut-être lié au fait que à la captation trop massive des marchés financiers du capital. Donc il y a effectivement un effet d'éviction qui est très fort et que les politiques monétaires quantitatives ont considérablement accru cet effet d'éviction. Là, il y a un vrai sujet de société, un vrai sujet pour penser à la réallocation ou à l'attrait de l'investissement productif, sans lequel on n'ira pas loin. Alors tant qu'on a le plan de relance européen et qu'on peut agiter la vaste idée ou toutes les sommes qui vont être dépensées dans ce cadre-là, bon, on camoufle la misère, on fait croire, mais en réalité on est très pauvre à ces niveaux-là et je pense qu'il y a un manquement généralisé sur ce sujet-là.
Xavier, vous êtes d'accord ? On ne parle pas suffisamment d'investissement dans ces programmes.
Comment voulez-vous parler d'investissement quand le principal item qui est mis en avant par les sondages, c'est le pouvoir d'achat. On organise la fiction du pouvoir d'achat. Et donc, à partir du moment où vous parlez de pouvoir d'achat, vous parlez très peu de création de richesse. Au fond, on a eu une stratégie de l'offre qui est mise en œuvre depuis un peu plus de 7 ans, une dizaine d'années, qui a été culbuté, qui a affronté deux chocs majeurs qui ont été le choc du Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et qui ont altéré pas mal de choses. Mais au fond, le processus d'éviction qui a lieu en France, qui est lié à la désindustrialisation, et le fait qu'on a beaucoup trop de dettes publiques. La dette publique se substitue à l'investissement en fonds propres dans notre outil, dans notre capacité économique. Et donc, forcément, si vous rajoutez, si votre programme, votre leitmotiv, c'est consommer plus, continuer à consommer, d'ailleurs consommer avec une bifurcation écologique, c'est un peu contradictoire dans les termes, vous arrivez à des, vous êtes au cœur de cette contradiction. Donc oui, l'investissement est compliqué parce que quand vous avez un État qui est en situation budgétaire avec un tel
déficit,
c'est qu'on essaye de compenser par le mécanisme du déficit le fait qu'on a une croissance potentielle qui n'est pas au bon endroit. Et donc voilà.
17h23 dans un instant, la Data Room, deux chiffres que vous avez choisi l'un et l'autre de commenter, mais vous l'entendez. Dernière ligne droite avant la clôture des marchés financiers, on retrouve Étienne Braque à Euronext. Étienne, on est toujours dans le vert, on progresse d'1,1%. Vous me disiez tout à l'heure que les volumes, en revanche, étaient plutôt anémiques.
En effet, puisqu'à 12 minutes du fixing, vous avez moins de 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice. Donc vous voyez, c'est un début de semaine en douceur, une hausse à relativiser. Néanmoins, vous avez un CAC 40 qui est sur des niveaux de 10 jours, hein, des plus hauts de 10 jours, au-delà des 7700 points, 7712 points. À noter que le secteur bancaire est en tête, idem pour les valeurs cycliques. Du côté de Wall Street, vous avez un Nasdaq qui fait une petite pause, hein, comme vendredi, ça s'essouffle au niveau des records. Quand le Dow Jones rattrape son retard avec un gain d'un peu plus d'1%, Dow Jones qui continue de surperformer le S&P 500 qui gagne 0,3% après déjà 8 semaines dans le vert, et donc la Bourse de Paris qui commence bien la semaine, mais des volumes qui sont absents avant l'inflation américaine vendredi, jeudi soir le débat entre Donald Trump et Joe Biden, et puis vous avez également des élections législatives au Royaume-Uni qui arrivent à grands pas. Bref, l'agenda est chargé pour cette fin juin et puis surtout pour le mois de juillet.
Merci beaucoup Étienne, on se retrouve pour le fixing dans une dizaine de minutes. Avant de passer à la Data Room, une question Xavier Patrolin, mais comment est-ce qu'on navigue sur un marché marqué par l'incertitude? Elle pourrait se prolonger bien au-delà du second tour des législatives. Si aucun bloc n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on risque de rester dans une période sans grande visibilité pour les marchés.
Oui.
Comment est-ce qu'on navigue sur ce marché?
Ben, cash is king.
Ouais.
Prendre vos profits.
En cash?
Mais oui.
Quelle proportion?
Je pense qu'on peut aller très loin aujourd'hui. On peut aller très loin. Pourquoi? Parce qu'au fond, sauf s'il y avait un miracle, les miracles sont toujours possibles, mais ils sont rares. Vous devez anticiper dans votre stratégie d'investissement. Alors après, il y a les valeurs du CAC 40 et le reste, évidemment. Mais dans votre stratégie d'investissement, le fait que les conditions de financement de l'économie française vont se dégrader structurellement. Et même peut-être les conditions de financement de la zone euro vont se dégrader par contagion. Et donc ça veut dire de la prime de risque, surtout les classes d'actifs, quels que soient les scénarios au 7 juillet au soir.
On s'est fait peur un petit peu la semaine dernière, on est monté jusqu'à 70 points de base sur le spread de taux, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne.
Mais on est un passager quand même. Enfin, comme vous dites, on s'est fait peur.
On était loin des niveaux enregistrés au moment de la crise de la dette, mais on était au même niveau de spread qu'au moment du Covid.
Faire bondir. Mais on est un passager clandestin de la zone euro. On est un passager clandestin de la zone
mais
euro.
Mais on n'est pas le seul.
Si, on est le seul. Parce qu'on est celui qui a, un déficit primaire qui est le plus élevé de la zone euro. Donc, ça, pour l'instant, on a bénéficié d'une clémence des marchés parce que la France n'a jamais fait défaut depuis plus de 2 siècles. Et il y a de bonnes raisons. Mais on rentre, ce qui est en train de se passer en termes institutionnels, en termes politiques, est quelque chose qui surprend tous nos partenaires. Alors, il faut être du côté de l'Arkansas pour ne pas mesurer l'impact. Y voir ça avec distance et dire au fond ça va rentrer dans l'ordre. Non, il se passe quelque chose de très important dans le Royaume de France. Et donc, je pense que pour revenir à la question sur la stratégie d'investissement, je pense qu'il est avoir comme hypothèse de départ que les conditions de financement de l'économie française et de l'économie européenne vont se dégrader et que les primes de risque aujourd'hui sur la classe action, je ne parle pas des prix de l'immobilier, sont pas au bon endroit. Oui, ça c'est à mon avis, c'est donc faire du cash aujourd'hui pour les mois qui viennent, qui vont rester tempétueux quel que soit le résultat du 7 juillet au soir, ça me semble être une bonne stratégie.
On pourrait en débattre pendant une demi-heure, on va passer à la Data Room. Évidemment, le temps est limité. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, la Data Room, le chiffre que vous avez choisi, 37, c'est le nombre d'États qui pourraient constituer l'Union européenne dans les prochaines années. Aujourd'hui, nous sommes à 27, ça veut dire 10 intégrations dans les prochaines années.
Des intégrations aussi.
10 intégrations, pardon, dans les prochaines années. Merci d'avoir rectifié. Il va falloir changer plein de choses si on passe de 27 à 37.
Eh bien, quand on voit comment ça fonctionne à 27, effectivement, on a le droit de se poser la question et d'être inquiet. Et je voyais Xavier qui soufflait « désintégration ». Je pense que c'était volontaire, ce n'est pas parce que vous aviez écorché le mot. Ça interpelle à bien des niveaux. Et fondamentalement, je pense que ça inquiète. Parce que finalement, autant l'Union européenne a pu avoir des succès par le passé, autant là, on a l'impression que chaque nouvel entrant, chaque nouvel adhérent joue comme un aspirateur du capital, un aspirateur de l'activité industrielle. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans un monde où les ressources d'activité s'érodent, la globalisation s'érode également. Donc on n'a plus le potentiel d'avoir des nouveaux players qui réexportent et qui dynamisent toute la zone. L'autre grande question, c'est le point de bascule d'une Europe qui va de plus en plus vers faire son nest. Alors très bien, moi j'aime bien les grandes familles et ça me va très bien. Sauf que dans les grandes familles, il faut des règles. Hein. Et si c'est pour tuer les anciens ou les déshabiller trop sévèrement, je pense qu'on va au chaos politique. Et j'ai quand même l'impression que le résultat des élections du 9 juin nous met un petit peu sur cette piste. Donc, effectivement,
vous êtes en train 37, de me dire, là, si je vous ai bien compris, que l'appauvrissement ou le sentiment d'appauvrissement en France est lié aussi à cette expansion peut-être trop rapide de l'Union
bien
européenne.
Bien évidemment, alors je ne vais pas mettre toutes les responsabilités sur l'UE, loin de là. Hein. Il y a des failles dans notre politique économique ces dernières années qui sont décennies et qui sont majeures. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? En fait, à chaque fois que vous rentrez quelqu'un, vous infligez un choc de compétitif pour le reste de la zone. Et ce choc, ben à force, alors c'est bien, on se dit ah mais le capital va se déplacer, donc ça va enrichir le nouveau pays et puis ça va assurer une croissance. Mais le capital, il est pas toujours fait non plus pour se déplacer. Au bout d'un moment, et on finit par en payer les conséquences pour une somme qui n'est plus un jeu à somme positive, qui commence à être peut-être déjà négatif. Et l'Allemagne est d'ailleurs en train d'en payer les conséquences, alors qu'elle a été la grande gagnante des extensions, de l'extension notamment en Europe de l'Est en 2004.
Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on est en train de payer la facture de l'intégration en même temps d'une dizaine de pays au début des années 2000 au sein de l'Union européenne ?
En partie, et on en a payé une partie de la facture d'ailleurs.
Économique et politique.
Mais cette facture, elle a été estompée par le fait que l'Allemagne, qui reste notre premier partenaire et un plus grand pays de la région, en a bénéficié. Hein. Donc ça a créé une illusion comme ça, qui fait qu'on a digéré la pilule. Mais quand on regarde dans le fond, effectivement, les conséquences de l'élargissement à l'Europe de l'Est, ça a été extrêmement néfaste pour la France, pour l'Italie également, pour ces pays qui ne sont pas des grandes puissances industrielles, qui n'avaient pas historiquement non plus des relations très fortes avec les pays d'Europe de l'Est. Et là, on va plus loin. Quand on voit ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, le déplacement de la richesse, parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c'est dit, tiens, là, on va quand même un peu loin, sans doute trop loin, et aller davantage dans cette direction sans remettre sur la table le mode de fonctionnement européen, des aides européennes, etc. C'est probablement très périlleux.
Et pourtant, on a l'impression que la course à la taille, c'est le discours que nous présente l'Europe comme notre canot de survie dans
bien
un
évidemment.
Monde qui est de plus en plus dur.
Exactement, et c'est bien pour ça qu'on accélère la tendance, et je pense que c'est une fuite en avant qui, fondamentalement, du point de vue économique, pose beaucoup de questions ou d'inquiétudes, d'ailleurs.
Xavier.
Oui, non, on va faire appel à la mythologie japonaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on est rentré... Ça, c'est tellement facile de dire ça. Est-ce qu'on est rentré dans un monde où, au fond, c'est le plus gros qui mange le plus petit,
ouais.
le plus faible, ou est-ce que c'est le plus agile qui bat le plus lent. Moi, j'ai l'impression que l'extension dans laquelle nous rentrons, au fond, qui est une espèce d'alpha et oméga de la construction européenne, qui est une construction qui échappe à ses pères fondateurs, au fond, va avoir comme variable d'ajustement le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire un marché de consommation. Or, si nous devons faire face à tous les enjeux, y compris les enjeux de décarbonation et autres, nous devons avant tout nous vivre comme une puissance, au sens politique, je n'ai pas nécessairement militaire du terme, mais pour nous vivre au sens d'une puissance politique, il va falloir qu'on se mette d'accord entre, je ne vais pas dire gens sérieux et gens moins sérieux, mais entre gens qui comptent et gens qui comptent moins. Et ce qui s'est passé en France en 2005, au moment du référendum sur
La Constitution.
La Constitution européenne et avec le sommet de Lisbonne où on est repassé par la porte, à mon avis, c'est un signal très clair. Les Français, ils étaient seuls en Europe, ont envoyé un signal très clair. Ils ne voulaient pas de la construction telle qu'elle s'est ensuite déroulée. Et on se dirigerait vers une stratégie fédéraliste. Cette stratégie fédéraliste va poser d'énormes antagonismes et les Français sont au cœur de ce truc-là. Je passe sur le fait qu'on est en train que notre population, qu'une partie en tout cas de notre population, se sent déclassée. Ça ne veut pas dire qu'elle vote contre l'Europe. Ça n'a rien à voir. Mais qu'elle vote probablement contre un processus qui échappe à ses pères fondateurs et qui devient, je dirais, incontrôlé.
Mais est-ce qu'on va pouvoir entamer ce discours, cette réflexion sur la reconstruction européenne avec une montée extrêmes droites dans plusieurs grands pays.
Non, mais sous le terme générique extrême droite,
populisme.
Voilà. Oui, mais même sous le terme populiste, c'est un terme de citadin. C'est pas une accusation que je te fais. Non, mais le populisme, c'est les gens qui prennent en charge peut-être de manière démagogique la cause du peuple, la cause de ceux qui se sentent déclassés.
Hein,
il y a le haut et le bas. Je vais mentionner Léon Trotsky. Une situation pré-insurrectionnelle, c'est une situation où le
haut ne peut plus et le bas ne veut plus. Et bien peut-être qu'en ce moment, la montée des votes dits d'extrême droite ou des votes nationalistes en Europe, c'est un indicateur qu'il y a une partie des populations européennes, c'est peut-être un peu plus fort en France, qui envoie le message aux élites, à ceux du haut, qu'ils ne veulent plus. Ils veulent autre chose. Après, il faut être capable de décoder, il faut être capable de se projeter, il faut être capable d'avoir un projet. Mais notre projet, ça ne peut pas être une extension à 37 avec comme seul alpha et oméga l'ambition d'être une puissance de consommation, d'être un grand marché de consommation qui voit défiler les trains de l'innovation technologique du côté américain et qui voit la base industrielle chinoise nous livrer les voitures électriques. C'est une absurdité et il ne faut pas sortir de sa cire pour s'en rendre compte.
17h34, oui, je pense que la démonstration est implacable. Xavier, votre data room à vous.
Oui, je suis un peu sorti des...
On va parler d'un autre sujet. Votre chiffre, oui, 82%, c'est la croissance annualisée de la capitalisation de Nvidia depuis 2019, qui est passée de 85 milliards de dollars à 3110 milliards.
Alors on pourrait dire, comme ça c'est du délire, mais pas du tout, parce que quand on regarde...
Mais ça illustre ce que vous venez de dire sur le train de l'innovation.
Et oui, et puis quand on regarde les agrégats de cette société Nvidia, qui sont exceptionnels, on voit que le chiffre d'affaires a été multiplié par 20, que le résultat d'exploitation par 24, 25. Donc on a une performance. Et vous savez que dans les révolutions digitales, c'est valable depuis au fond les programmes Apollo, depuis le début des années 70. Le premier, The Winner Take All, la fameuse chanson d'Ava, le premier prend 80% de la valeur. Ouais. Et là, on est peut-être sur la plus grande révolution digitale peut-être du siècle à venir, et on a un acteur qui, pour l'instant, est dans une situation de monopole. La question est de savoir, est-ce que le rythme va se décélérer, et surtout, est-ce qu'il va y avoir des contre-propositions technologiques qui vont pouvoir reprendre la main? Parce que la marge d'NVIDIA, je termine, la marge d'NVIDIA est passée en même pas 10 ans, est passé de 12-15% à 60-65%. Donc là, c'est pour le pricing power. Souvent, on en parlait sur ce plateau pendant de nombreuses années. Là, pour le coup, là, évidemment, ils sont dans une situation incroyable avec une intégration verticale, c'est-à-dire une base clientèle, une base quasiment pas de base industrielle, uniquement du process, et puis une situation de monopole. Dites-vous bien que des grands GAFA commande à Nvidia avec 24 mois d'avance.
Des processeurs à 40 000 dollars.
Voilà, vous imaginez. Donc c'est quelque chose qui est quand même qui est très surprenant, il faut le reconnaître.
Pendant ce temps, nous en Europe, on débat du calibre des aspects.
Voilà, c'est ça.
Bon. Mais ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Véronique. Nous, on n'investit pas suffisamment pour préparer ces trains technologiques.
Oui, incontestablement, tout se rejoint, je pense, dans tous les termes qu'on a abordés. Et tout pointe quand même vers une incapacité de l'Europe à se prendre en main et comme une puissance, effectivement, à avoir un peu une puissance d'envergure et qui ne soit pas seulement un grand marché de consommateurs, mais une puissance économique capable de produire. Alors, on peut parler de la souveraineté technologique, ça va peut-être booster un petit peu les esprits, mais il y a autre chose, bien évidemment.
Et Xavier voudrait le mot de la fin.
Oui. N'oublions pas qu'on a quand même un atout, malgré nos performances au classement PISA qui sont terrifiants en mathématiques, c'est qu'on a une très bonne école mathématique des élites. Et que tous les grands départements d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley ont quasiment tous systématiquement à leur tête des ingénieurs, des mathématiciens français. Donc on a une chance. Donc si on arrivait à réussir un cocktail, d'avoir une vision stratégique et de rapatrier une partie de la valeur ajoutée intellectuelle que nous avons aux États-Unis pour diffuser cette évolution de l'intelligence artificielle dans le tissu industriel, là on aurait une carte à jouer. Est-ce que ça changerait complètement la donne pour les plus faibles d'entre nous? J'en sais rien, mais je pense que ça créerait une dynamique économique qui serait très utile à notre pays.
Merci beaucoup à tous les deux. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Merci à Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Débat enflammé, conviction sur ce plateau. Du coup, on a un petit peu explosé le compteur. On est très très en retard, 17h38 bientôt. Du coup, je vais vous donner la clôture. Je vais griller la politesse à Étienne Brack. 1,03% de hausse pour le CAC à la clôture. 7706 points. On se retrouve dans un instant pour le fixing et un peu dépassé. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
La clôture, c'était il y a 5 minutes. On est très en retard. Étienne Brack est avec nous en direct d'Euronext. Finalement, Étienne, 1,03% de hausse à la clôture, 7706 points. Avec le fixing, qu'est-ce que ça donne au niveau des volumes ?
Écoutez, vous avez plus de la moitié du volume qui s'est réalisé au fixing. Donc ça a vraiment été une séance très calme entre 9h et 17h30. Et puis, tout s'est fait au moment de la clôture avec un CAC qui, de justesse, franchit la barre des 3 milliards d'euros, 3 milliards 36 précisément. 7700 points, c'est quand même assez notable, hein, puisque depuis ses plus bas d'il y a une dizaine de jours, le CAC 40 a repris un peu plus de 250 points. À noter que le secteur bancaire est le grand gagnant du jour, avec Société Générale, Crédit Agricole qui gagne plus de 2% et même BNP qui est ce soir la plus forte. Hausse, plus 3,2% au-delà des 61 euros et donc repasse devant Banco Santander en termes de première capitalisation boursière en Europe dans le secteur bancaire. Très peu de baisse à noter aujourd'hui, à l'exception bien sûr d'Eurofins hein, qui ce soir pèse très clairement sur la valeur hein, puisque vous avez un titre qui perd plus de 16% ce soir à la clôture à 44,22 € avec un fonds activiste qui met le doigt sur des comptes qui seraient peut-être truqués, donc forcément le marché dans le doute vend la valeur et beaucoup de produits dérivés appuient également sur le bouton. À noter que le Brent retrouve la barre des 85 $ quand le 10 ans français se détend et repasse sous la barre des 3,15, 3,13 précisément. Et donc vous avez un spread, un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui repasse sous les 70 points de base, ce qui est là aussi une bonne nouvelle pour le marché actions et ce qui permet d'expliquer ce beau rebond en début de semaine, plus 1% donc ce soir à la clôture, 7706 points avant des éléments majeurs cette semaine, le débat aux États-Unis entre les deux candidats à la Maison Blanche et puis surtout l'inflation américaine qui sera publiée vendredi en début d'après-midi.
Merci beaucoup Étienne Brack en direct d'Euronext. Romain Dobry est également avec nous, Bourse Direct. Romain, quel est le bilan technique de cette séance ?
Mais un rebond avec des volumes modestes, donc on reste dans cette configuration d'attente, évidemment. Il faut dire que pour cette nouvelle échéance technique des marchés dérivés du mois de juillet, les marchés européens sont désertés. Sur l'Eurostoxx, sur la période, on a perdu 3% et on n'a pas reconduit 15% du nombre de contrats futurs. Sur le CAC 40, on a perdu 6,5% et c'est 10% du nombre de contrats futurs qui n'ont pas été reconduits. Et par ailleurs, en contrepartie, un ratio de couverture qui est devenu prudent sur l'Eurostoxx et on peut le dire carrément pessimiste sur le CAC 40. Dans d'autres circonstances, je vous dirais que c'est probablement un point d'entrée sur le marché, que eh bien les positions baissières n'ont pas été reconduites et cet assèchement de l'intérêt pourrait être une opportunité. Dans le contexte actuel, ça incite plutôt très nettement à la prudence et à prendre un peu de recul. On arrive sur une zone technique importante, c'est 7744, 7791 sur l'indice CAC 40. C'est une zone de à mon sens, idéal pour se couvrir à nouveau et être prudent. Si on arrive à déborder ce niveau-là et jusqu'à 7931, on entre en neutralisation et ça n'est qu'au-delà de ce niveau qu'on pourrait considérer la réactivation de la dynamique haussière. Si en revanche on passe sous 7653, les risques de réplique baissière marquée sont importantes.
Merci beaucoup Romain Dobry, Bourse Direct, pour cette analyse technique. 17h43, on refait la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
Bonsoir Eric Lewis.
Faut que j'aille très très vite là mon cher Stéphane.
Ça y est.
On est très en retard.
On n'a pas commencé, on je me fais déjà monter les bretelles. On est en retard. Directeur des publications Agora, d'abord un mot de cette séance. J'ai un petit peu l'impression, on en parlait tout à l'heure dans le club, qu'avec le RN qui progressivement retire des grandes mesures économiques, le marché ne le dit pas explicitement, mais il préfère le scénario RN que... Nouveau Front Populaire.
Moi, je parie Nouveau Front Populaire, c'est moins 15 sur les marchés. C'est tellement un programme complètement absurde où on abandonne complètement l'économie de l'offre que, bien évidemment, ça ferait s'effondrer les marchés. Non, là, ce que voient les investisseurs, c'est que le RN, pour l'instant, j'y dis bien pour l'instant, mais des sondages de législatifs, c'est très compliqué, n'a pas la majorité absolue. On aurait une majorité relative et certains se mettent à rêver à ce qu'on appelle une mélanisation du RN. Quand Giorgia Meloni a été élue, c'était en septembre 2022, les taux longs étaient à 4,80 le 10 ans italien, il était monté jusqu'à 5 et on est à combien maintenant ? À 3,95. Même chose sur la bourse, quand vous regardez depuis cette période, septembre 2022, l'indice MIB de la bourse de Milan a gagné 35%. Donc certains se disent, comme le RN, on a le sentiment que Jordan Bardella essaye d'aseptiser son discours, essaye d'en faire de moins en moins. Bon, l'euro déjà, il n'y avait plus de problème, mais les retraites, la TVA, on se dit que ça serait peut-être un programme qui pourrait correspondre et qu'on trouverait peut-être une majorité avec un Premier ministre. Enfin, sur Bardella quand même, il a dit qu'il ne voulait pas être Premier ministre, il n'avait pas la majorité absolue. Donc rien n'est réglé, mais vous savez, les séances se suivent, ne se ressemblent pas. Il y a pas mal de volatilité. Et ce qui est quand même incroyable, c'est sur le 10 ans français qui se retrouve ce soir à 3,14. Je vous rappelle que la veille de ces fameuses élections européennes, veille de la dissolution, on avait clôturé le vendredi soir à 3,10 sur les 10 ans français. Donc un type qui serait parti pendant 3 semaines aurait vu que le 10 ans français n'a gagné que 4 points. Alors dans le même cas, le 10 ans allemand a beaucoup baissé, mais on est quand même sur un écart de taux entre 72 et 74
points. Ça veut dire quoi? Que ça reste volatile ou que le marché a déjà pricé un scénario?
Ça veut dire que le marché a acheté la dette allemande, mais n'est pas prêt pour le moment à vendre la dette française. Je crois qu'il y a une émission obligataire la semaine dernière, une OAT de 15 milliards qui s'est très bien passé la semaine dernière. Et on a le sentiment que pour l'instant, les investisseurs n'ont pas du tout envie de vendre la dette française.
Rebond des bancaires aujourd'hui, comment est-ce qu'on analyse? C'est juste un rebond après une semaine qui a été épouvantable, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas très négative.
Non, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, si l'environnement économique est un peu moins incertain qu'on aurait pu le penser, les valeurs qui ont fortement baissé, comme les concessions autoroutières, Vinci et Fage, plus les bancaires, doivent progresser. Mais encore une fois, vous savez, on reste dans le petit jeu. Moi, je pense franchement, je l'ai dit à de nombreuses reprises ici, qu'il faut quand même rester un petit peu à l'écart des marchés avant les résultats des élections, parce qu'on sait quand même pas où on va. Parce qu'encore une fois, sondage des Européennes, les sondeurs ne sont pas trompés, mais sondage sur des législatives, 577 circonscriptions, franchement, j'attends de voir.
Bon, une fois qu'on s'est dit toutes ces banalités, on va
merci
entrer
pour
dans
moi.
Le dur. Les small caps, on a vu que les small caps, dans cet environnement, ont beaucoup plus souffert que les grosses valeurs du CAC 40. Il y a forcément une explication.
Alors, ce qui est triste, c'est qu'au mois de mai, par exemple, il y a eu 100 millions de collectes dans les fonds small caps en France. Mais malheureusement, en l'espace d'un mois, enfin depuis la dissolution, on perd 4,5% sur le CAC, on perd 11% sur le CAC small. Pourquoi? Parce que les small caps sont trop franco-françaises. Le CAC 40, c'est 82% de leur chiffre d'affaires à l'international, 18% en France. Dans le monde des small caps, c'est surtout entre 80 et 90% en France et 10% à l'international. Donc on se dit, si ça dérape en France, eh bien ça dérapera dans le monde des small caps, ce qui est dommage. Et donc là, on a de nouveau un écart très important de performance entre le CAC 40 et le CAC small. Mais encore une fois, quand vous regardez, et ça sera moins des banalités, parce que je vous vois sourire, je vous connais par cœur Stéphane depuis 20 ans, je vois son petit sourire, il se dit, c'est inintéressant ce qu'il me raconte.
Absolument
non,
pas.
Non, je plaisante. Quand on regarde les ratios de valorisation, les small caps sur 10 ans, on est sur un PER de 16. D'accord. Là, en ce moment, on est sur un PER de 11,5. Donc, elles sont vraiment décotées. Maintenant, c'est sûr que tout dépendra.
Non, mais c'est un peu une déception quand même, parce qu'on avait vu ces derniers mois les small caps qui remontaient la pente et qui performaient mieux que le CAC, d'ailleurs.
Tout à fait. Mais vous savez, l'idée un peu saugrenue de Macron de dissoudre l'Assemblée, vous avez beaucoup de fonds small caps en juin qui ont des rachats. Et donc, ils ont été obligés de vendre en catastrophe. Il y a pas mal de valeurs qui ont perdu entre 25 et 30% sans aucune raison apparente, si ce n'est qu'il y avait des rachats de fonds. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Mais moi, j'estime que si on trouve, un moment ou un autre, une coalition, elle devrait remonter.
On va parler d'Eurofins scientifique. 16% de baisse à la clôture. Dégringolade après une note du fonds activiste Muddy Waters, qui a pris une position vendeuse sur le titre. Ça interroge quand même sur l'influence et la stratégie de ces fonds activistes. Eux se présentent comme des lanceurs d'alerte. Est-ce que il y a quand même pas un agenda derrière ces interventions?
En fait, il y a 250 fonds activistes dans le monde. Il y a deux grandes catégories. Vous avez les fonds activistes comme Bluebell Capital, qui sont des fonds qui rentrent dans le capital, qui prennent 1 ou 2% et qui disent voilà, c'est mal géré, il y a des problèmes, il faut céder des activités, mais qui sont plutôt productifs.
Donc des lanceurs d'alerte.
Des lanceurs d'alerte. Et Bluebell Capital, par exemple, c'est grâce à eux que le patron de Danone avait été remercié parce qu'on trouvait que finalement ils avaient raison. Et puis vous avez l'autre partie qui sont les short sellers, c'est les Buddy Waters, c'est tous ces gens-là, c'est les
vendeurs à découvert en français.
C'est un peu des fonds vautours qui eux prennent des positions ultra baissières sur des valeurs et qui dans leur stratégie font tout pour que les valeurs baissent. On a vu ça avec Casino, ils avaient quand même averti au bon moment sur Casino. On a vu ça sur Wirecard en Allemagne, société qui avait fini en faillite. On avait vu ça sur GoEx en Espagne, société qui avait fini en faillite. Et donc là, ils sont sur Eurofins scientifique en disant qu'il y a peut-être des malversations comptables, etc. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce dossier parce qu'ils se sont parfois plantés. Il y a une société qui s'appelle Vision Group, l'ex SES Imagotag, spécialisée sur l'étiquetage électronique. Je crois qu'il y avait eu un rapport de ces mêmes Buddy Waters, c'était il y a un an et demi, en disant qu'il y avait des malversations comptables, et finalement, il n'y avait rien. Donc, il faut faire attention, quand même, dans ce genre de dossier. Moi, je préfère de loin les premiers qui rentrent dans le capital et qui essayent de changer la stratégie, plutôt que des gros vendeurs à découvert, parce que très souvent, ils ont pris déjà des positions vendeuses, et puis ils accentuent les positions vendeuses avec ce qu'on a vu. Un dernier mot d'Eurofin Scientifique, j'ai regardé ce matin pour vous, mon cher Stéphane, en préparant l'émission, il y a les trois valeurs les plus shortées de l'indice parisien du CAC 40. Il y avait Alstom, avec plus de 20%, il y avait Carrefour, et Eurofin Scientifique, avant l'annonce de Buddy Waters, il y avait une position vendeuse de 8,5% du capital qui était vendue. C'est quand même un sacré coup de canif pour Eurofin Scientifique. Je vous rappelle que le titre a été visé par 3, il est rentré au CAC 40, et ça me fait dire que très souvent, les boîtes qui rentrent au CAC 40, les 2-3 prochaines années...
La malédiction
mais c'est CAC, catastrophique, hein. c'est catastrophique. La problématique est là, ils sont rentrés peut-être sur une valorisation trop élevée au CAC 40. En tout cas, il faut attendre d'en savoir plus. Moi, j'ai pas du tout envie de crier avec les loups, parce que c'est vrai que Gilles Martin, en 40 ans, a réussi quand même à faire un groupe extraordinaire avec Eurofin Scientifique. J'espère que tout ça n'est pas si sûr du vent. On le saura dans les semaines et mois qui viennent.
Merci Eric Lewin. Ça a fait très vite. Il faut qu'on laisse un petit peu de place à Christian Fontaine.
Le notaire de province est revenu.
Eric Lewin, je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Non, mais on se connaît très
directeur
bien, Christian et moi. Donc,
des publications Agora. Alors, vous savez quoi? Moi, j'ai une oreillette, à la différence de vous, et l'oreillette me dit, on ne l'a pas appelé. Donc, il n'est pas connecté. Donc, on a un petit peu de temps. Et ça tombe bien. Moi, j'avais une question pour vous par rapport à ces fonds activistes. C'est le boulot du régulateur?
Ouais, c'est
on sait que l'AMF regarde le sujet, hein.
Mais oui, vous savez, par exemple, chez certains brokers en ligne, vous avez une petite case que vous pouvez cocher et vous autorisez le broker à prêter vos titres. Et donc, à ce que ces titres soient vendus à découvert.
Ouais.
D'accord? Et donc, il peut se passer tout. Il y a plein de petites boîtes qui ont baissé fortement en bourse au cours des derniers mois, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert. Donc, sur la vente à découvert, il n'y a pas vraiment de législation. Ça veut dire, tout le monde dit non, c'est pas très cohérent de vendre à découvert.
Je sais que je vais me faire des amis.
Mais ça fait partie
et des ennemis. Mais est-ce que c'est pas un petit peu absurde de créer de la valeur lorsqu'on en détruit? C'est le principe de la vente à découvert.
Je suis d'accord. Mais vous savez, dans certains cas de figure, par exemple, Wirecard, quand ils sont venus sur Wirecard en disant, attention, c'est une fintech où il y a que des irrégularités comptables.
Oui.
Finalement, ils avaient raison parce que Wirecard a déposé, on a été en liquidation. Même chose sur GoWex. GoWex, c'était une société qui, dans les années 2010, vous vous en souvenez, ils faisaient du Wi-Fi gratuit. Et ils avaient annoncé un chiffre d'affaires totalement dingue. Et finalement, on s'est rendu compte que tout était sur du vent. Donc oui, je pense que les vendeurs à découvert font du bien, mais il faut pas qu'ils soient vendeurs à découvert, qu'il n'y ait rien derrière. Donc c'est là que le législateur doit agir.
Merci beaucoup Eric Lewin, directeur des publications Agora. Pardon. Christian Fontaine est avec nous, directeur de la rédaction adjoint au magazine Le Revenu. Bonsoir Christian. On n'a plus beaucoup de temps. 1 minute 30. Je vous donne la question à laquelle vous allez répondre. Question d'Amélie. Quelle allocation adopter face aux incertitudes politiques?
Ben, face aux incertitudes politiques, il ne faut pas hésiter en fait à renforcer les actions américaines. Je pense que on peut être patriote et diversifier son portefeuille à l'international. C'est vraiment une leçon de cette dissolution et du risque donc alors de l'arrivée au pouvoir d'un parti extrême. Il ne faut pas hésiter à aller chercher la croissance où elle se trouve. Et là, en ce moment, c'est clairement aux États-Unis les dernières prévisions de bénéfices par action pour 2024-2025. De DataStream parle d'elle-même. Aux États-Unis, plus 10,4% en 2024, plus 14,1% en 2025 pour l'indice Standard & Poor's 500, tandis qu'en Europe, pour le Stoxx 600, on n'est qu'à plus 5 et plus 10,5%. Donc, ne pas hésiter à mettre une bonne dose d'actions américaines. Le Revenu recommande 45% d'actions américaines pour un profil équilibré et 40% pour un profil prudent, mon cher Stéphane.
Merci beaucoup pour cette concision. Christian Fontaine, directeur de la rédaction adjoint au magazine Le Revenu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Le CAC ce soir a terminé en progression de 1,03%, 7706 points. Les marchés américains, le Dow Jones à l'instant gagne 0,9%, le S&P 0,3%, le Nasdaq est dans le rouge et il recule de 0,26%. Dans un instant, Good Evening Business avec Guillaume Paul et toute son équipe. Demain, vous retrouverez Guillaume Sommerer aux commandes de BFM Bourse à partir de 15h30. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.